France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité. Tous les matins jusqu'à 9h30, retour sur deux événements qui font l'actualité sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Delis.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons Alix Bouillaguet, éditorialiste à France Info TV et l'interview politique tous les matins à 7h45. Bonjour Alix.
Bonjour Agathe.
Et Jean-Rémy Baudot, chef du service politique de France Info. Bonjour Jean-Rémy.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
On commence avec notre premier débat, Renaud. François Bayrou est tombé, et maintenant?
Et oui, comme prévu, le gouvernement Bayrou n'a donc pas obtenu la confiance hier à l'Assemblée nationale. 364 députés lui ont refusé la confiance contre 194. Tous les groupes de gauche, l'extrême droite, mais aussi 13 députés LR, par exemple, ont voté pour renverser donc François Bayrou, qui présentera ce midi la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron à l'Élysée. L'Élysée qui a fait savoir hier qu'Emmanuel Macron décidera de la nomination d'un successeur dans les tout prochain jour. C'est d'ailleurs ce que souhaitait hier soir sur le plateau du 20h de France 2 le ministre de l'Intérieur démissionnaire, donc Bruno Retailleau.
Il faudra d'abord un Premier ministre, le plus vite possible, je le crois, parce qu'on va aborder des jours difficiles, peut-être qu'on en parlera, et il faut pour la France un budget. Qu'est-ce que se ferait la nouvelle dissolution? Je le vois bien. Pour beaucoup, ce serait la marche avant la destitution du président de la République. C'est ce qu'il cherche, c'est le chaos.
Alors, le chaos, la marche avant la destitution du président de la République, et d'ici là, des jours, dans les jours qui viennent, des difficultés évoquées par Bruno Retailleau, notamment demain, ce mouvement annoncé, cette mobilisation dite « bloquons tout ». Est-ce que le chef de l'État peut, cette fois-ci, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, décider rapidement de nommer un successeur à François Bayrou? Et puis, quel peut être le profil de ce successeur? Quelle majorité relative, plus ou moins fragile, pourrait soutenir ce futur gouvernement au regard de la situation actuelle de l'Assemblée nationale?
Là, on rentre dans le dur, Alix Bouillaguet. Ça fait des jours qu'on spécule sur le timing et sur le nom. Maintenant, on y est. Est-ce qu'il peut aller vite, Emmanuel Macron, vraiment?
Alors moi, j'ai tendance, oui, à envisager qu'il puisse, si tant est que c'est possible pour lui, aller vite. C'est vrai que bon, il a une marge de manœuvre, hein, 51 jours, me semble-t-il, pour nommer Michel Barnier, une huitaine pour nommer François Bayrou. Donc peut-être qu'on sera dans la semaine à peu près fixé. Je pense qu'il va aller vite, d'une part, parce que ça fait quand même 15 jours qu'il réfléchit. La chute de François Bayrou, on l'a vu quand même arriver de loin. Donc au moins, ça lui a permis de peut-être se mettre ses idées au clair. Et puis il y a un budget tout simplement qu'il va falloir adopter. Alors ce budget, il est un peu avancé, mais il va falloir mettre quelqu'un, un pilote pour commencer à négocier, un pilote pour proposer ce budget d'ici à la fin de l'année. Il n'y a pas de raison qu'il procrastine cette fois-ci. Moi, je pense que s'il y a peut-être éventuellement un peu de retard à l'allumage, ce sera peut-être sur la confection, la conception de ce
gouvernement ensuite,
où effectivement, il y aura ce Premier ministre qui sera chargé de trouver des plateformes communes et de pouvoir négocier ce budget. Et puis dans un deuxième temps, il n'y a pas non plus d'urgence, les ministres qui feront partie de ce gouvernement.
Pour aller vite, il faudrait déjà avoir une idée du successeur de François Bayrou. Jean-Rémy, vous pensez qu'Emmanuel Macron a trouvé? Il y a des favoris, des pistes sérieuses?
Alors, la course de petits chevaux a évidemment débuté. Il y a plein de noms qui circulent. On peut en citer quelques noms, mais honnêtement, si je vous dis Sébastien Lecornu, si je vous dis qu'il y a le Brun Pivet encore ce matin sur RTL, clairement fait campagne. Je vous dis que Xavier Bertrand pousse son avantage ou que le nom de Catherine Vautrin revient encore, ça ne dit pas forcément la question, au-delà du profil, de quelle majorité cette personnalité sera en capacité de mettre derrière elle. Parce que effectivement, il y a la question. Alors la question du timing est importante quand même sur cette semaine. Demain, mercredi, journée de bloquons tout. Donc la réalité, c'est qu'on
avant demain, c'est possible.
Ça me semblerait honnêtement. Encore une fois, on va peut-être être totalement démenti, mais quel intérêt aurait-il à mettre trop en avant, trop vite, un Premier ministre qui va être conspué demain éventuellement dans la rue? Donc on pourrait peut-être imaginer à partir de jeudi matin, sachant qu'il y a une échéance qui là est plutôt financière, qui est vendredi, l'agence Fitch qui va mettre une note à la France sur sa dette et qui vaudrait mieux que la France puisse afficher un semblant de stabilité politique, donc peut-être avec une tête à la tête de Matignon. La vraie question derrière ça, c'est ce que Renaud disait tout à l'heure, c'est quelle majorité? Quelle est la clé de passage entre la gauche, et encore la gauche, les socialistes, et au sein du Parti socialiste, en gros Olivier Faure et ses compagnons, et les centristes, les macronistes, et une partie de la droite qui accepterait de se mettre autour de la table. Le seul élément intéressant pour Emmanuel Macron, le seul levier qu'il a réellement, c'est qu'aucun de ces trois groupes n'a intérêt à aller au clash et à faire tomber un gouvernement trop rapidement, parce qu'aucun de ces trois groupes n'a intérêt à une dissolution rapide. Parce qu'ils savent qu'ils reviendraient tous moins nombreux. Donc, c'est peut-être le levier qui peut permettre aux uns et aux autres de se mettre autour d'une table.
Je crois qu'il faut reprendre, en effet, les choses dans l'ordre. Et je suis de bonne composition ce matin, donc je suis plutôt d'accord avec Jean-Rémy Baudot. Le problème, c'est pas le casting, en fait, même si tout le monde en parle, tout le monde va en parler. Effectivement, les offres de services pleuvent, hein, comme à chaque fois. Il y a toujours abondance de candidats, même dans des situations politiques extrêmement compliquées. Le problème, c'est pas tant que ça l'agenda, que ça prenne 5 ou 9 jours. Évidemment, si ça en prend 50, ça poserait un problème, notamment au regard des échéances budgétaires. Le problème, c'est toujours le même. C'est un problème à la fois politique et arithmétique. C'est quelle majorité peut accorder un délai, un certain délai, en tout cas un certain temps de vie ou de survie au futur Premier ministre. Or, de ce point de vue-là, tant qu'il n'y a pas de dissolution, laquelle est réclamée hein, par un certain nombre d'acteurs politiques, à commencer par l'Assemblée nationale, ça n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut un Premier ministre qui soit à la fois acceptable par LR d'un côté, la droite, et par les socialistes de l'autre côté, et puis évidemment par le bloc central. Donc il y a des hypothèses qu'on peut écarter, déjà au regard des déclarations, en tout cas publiques, si on les prend au pied de la lettre. Olivier Faure fait des offres de services répétées, hein, il l'a redit hier, c'est le temps de la gauche et des écologistes. Sauf que LR a dit qu'il ne soutiendrait pas, et a priori, il y a encore parfois dans la formulation un semblant d'incertitude, mais on les imagine assez vite censurer un Premier ministre socialiste, ce qui est aussi le cas d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a répété hier. Hein. Jean-Luc Mélenchon a dit, Olivier Faure à Matignon, il n'y en avait pas question, il a même été, comme souvent, assez condescendant dans ses propos en disant « il en rêve tous les jours ». Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné avec François Bayrou qui, sur le papier, disposait de 210 voix, ce qui n'était pas la majorité, loin de là, c'est 289 à l'Assemblée nationale. Sur le papier, au départ, 210, hier, il en a eu seulement 194. Si on regarde Olivier Faure qui dit « je suis prêt à être Premier ministre », il en a 121, si on additionne les députés socialistes, écologistes et communistes. Donc, a priori, cette hypothèse-là paraît totalement impossible. De l'autre côté, est-ce que LR a des candidats susceptibles d'être adoubés par le bloc central et acceptés aussi par les socialistes? Peut-être, ça peut arriver, peut-être. Sinon, on retombe sur un Premier ministre issu du bloc central qui réussirait à discuter avec les uns et avec les autres, avec les socialistes et avec LR.
Il y a quand même, si je peux me permettre, un profil qui se détache, qui pourrait faire l'équation. C'est vrai que vous parlez des républicains. C'est vrai qu'on s'est tourné vers Olivier Faure. Je pense que ça, c'était un écran de fumée. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait eu l'intention à un moment, enfin, je serais peut-être démenti dans les jours qui viennent, mais de nommer le patron des socialistes, d'une part, parce que la cohabitation, comme il l'a vécu avec Michel Barnier, bon, ça n'a pas été quand même une partie de plaisir. Et puis, il n'est pas non plus prêt à renier complètement son programme. Du côté des Républicains, il y a ce nom de Xavier Bertrand, mais là, il y a quand même une grosse problématique. C'est quand même Lucas du Rassemblement National qui, au premier mot et à la première parole de Xavier Bertrand, avant même qu'il ait commencé à parler d'un début de budget, il y aura une censure a priori. Donc, quand on dit ça, on arrive quand même sur un profil qui effectivement, dont la petite musique vient jusqu'à nous depuis hier, c'est-à-dire celle de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Lui, il a... Alors, un des avantages, c'est effectivement d'être issu de ce bloc central qui a été totalement fragilisé parce que vous avez dit des voix ont manqué aussi à l'appel lors du vote de confiance. Mais il n'est pas non plus identifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas très médiatique, Sébastien Lecornu. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins médiatique que Gérald Darmanin. Et puis, il a un avantage aussi, c'est qu'il n'a pas fait une loi immigration. Donc, il peut parler avec la gauche.
Il est moins irritant.
Exactement.
Il a cultivé ses relations avec le Rassemblement national aussi.
Il n'y a pas que de contentieux avec le PS. Il a de bonnes relations avec le Rassemblement national. Cette prudence médiatique le protège quand même. Pour Emmanuel Macron, c'est une ligne directe, hein, une loyauté totale. Donc
c'est peut-être le problème, d'ailleurs.
Ce sera la voix de son maître.
C'est un peu une émanation d'Emmanuel Macron.
Et puis, il n'a pas d'ambition non plus. Il n'a pas d'ambition personnelle, a priori, pour la présidentielle pour l'instant. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est le savoir-faire en matière de deal. C'est un deal-maker, il fait de la popole ou de la poloche, comme on dit. Et contrairement à ce qu'on entend de gouvernement technique, non, il faut quelqu'un qui puisse, en sous-main, faire des accords.
Parce que derrière, c'est Emmanuel Macron qui est visé. Emmanuel Macron le prochain.
Il se retrouve en première ligne. Pourquoi est-ce que le chef de l'État devrait, en tout cas, ce serait son intérêt politique, agir vite, décider vite? Parce que certaines voix s'élèvent déjà pour réclamer son départ ou sa destitution, à commencer par celle du fondateur des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs annoncé que les Insoumis allaient enclencher une nouvelle procédure de destitution. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, sur le plateau du 20h de France 2.
Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur.
Emmanuel Macron peut-il résister à la pression, Jean-Rémy Moulin ?
Ça va être toute la question, et c'est aussi pour ça qu'il a besoin de mettre entre lui et la pression un Premier ministre pour être à nouveau un fusible. C'est aussi comme ça que fonctionnent nos institutions. Un mouvement refondateur, on entend Jean-Luc Mélenchon. La seule difficulté, c'est que imaginez si à chaque fois qu'il y a des tensions politiques, une crise politique, on en appelle à la démission du président de la République. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune stabilité dans le pays, et qu'il y a, ça n'est pas peut-être la seule manière d'entendre le peuple que de démissionner. Et puis un point technique, si d'aventure Emmanuel Macron démissionnait, l'élection, et ça c'est dans la Constitution, doit arriver entre 20 et 35 jours. Quel débat politique peut-on avoir en 35 jours, en un peu plus d'un mois? Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va avoir un débat apaisé sur l'avenir de notre pays? Peut-être ce qu'on n'a pas vraiment eu pendant la campagne de 2022. J'ai quelques craintes et je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait un débat apaisé en 35 jours.
Je crois qu'il faut distinguer les deux hypothèses. La destitution la démission du chef de l'État, je ne vais pas répéter tout l'argumentaire de Jean-Yves Bedeau que je partage, ce serait ajouter de la crise à la crise pour toutes les raisons qu'il vient d'évoquer. Effectivement, on n'évacue pas une présidentielle en 35 jours dans le contexte politique, social, qui est aujourd'hui celui du pays. Ça n'a rien à voir avec l'hypothèse de la dissolution, qui, elle, d'ailleurs, on le voit dans les sondages, est plutôt soutenue par l'opinion et qui peut finir par s'imposer au regard de la situation politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La pression me semble beaucoup plus forte de ce côté-là. Et là aussi, plus Emmanuel Macron tardera à décider, à trouver un dispositif, plus cette hypothèse-là, elle peut monter dans l'opinion. Et on entend la dissolution ne résoudrait rien, il n'y aurait aucune majorité, etc. et tout. C'est pas si sûr que ça. En tout cas, du côté du Rassemblement national, on dit, si jamais il n'y a pas de Front républicain, si la gauche est divisée, cette fois-ci, on aura la majorité, au moins relative. Et puis, c'est une aspiration qui peut être, d'un point de vue purement démocratique, assez légitime au regard des Français. Donc, je pense qu'il faut distinguer les deux hypothèses. Autant la démission ajouterait la crise à la crise, autant la dissolution peut finir par s'imposer comme une solution politique à la crise.
Oui, la démission, autant je ne vois pas vraiment Emmanuel Macron se faire harakiri. Il ne peut pas être poussé à la démission. En revanche, oui, il peut être poussé à la dissolution. Si, par exemple, le Rassemblement national décidait de censurer systématiquement chaque gouvernement avant même qu'il ouvre la bouche, c'est vrai qu'au bout de deux, trois premiers ministres, peut-être que la question effectivement se poserait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit climat. Quand on entend les ténors de la droite, Valérie Pécresse, Jean-François Copé, plaider eux aussi pour une présidentielle anticipée et pour la démission du chef de l'État, là quand même on se dit le contexte il est quand même assez chaud.
Excusez-moi, et puis ces deux-là, c'est les deux que vous venez de citer, Valérie Pécresse et Jean-François Copé, on sait que quand ils plaident pour une présidentielle anticipée, c'est pas pour eux, a priori. C'est pas parce qu'ils rêvent d'arriver à l'Élysée.
Donc c'est totalement désintéressé.
Absolument.
Jean-Rémy, un mot.
On est en train de vivre peut-être une crise politique, on est peut-être en train de vivre surtout une crise du politique, c'est-à-dire que l'instabilité du moment va aggraver la défiance. Et dans une démocratie mature, on mettrait en place un Premier ministre qui serait chargé de chercher des accords, de chercher peut-être les 3-4 thèmes. À 18 mois d'une présidentielle, il n'y a pas beaucoup de thèmes sur lesquels, en vrai, les parlementaires vont se mettre d'accord. Et donc, on est quand même face à un système politique qui refuse de voir qu'on n'est plus dans le fait majoritaire. Et on est dans un système politique qui, pour l'instant, refuse d'être dans le dialogue. Alors l'idée de Gabriel Attal de mettre en place un négociateur qui, d'un point de vue institutionnel, n'existe pas. Ce négociateur devrait s'appeler un Premier ministre. Manque de bol, lui, il l'a été. Et c'est pas dit qu'on ait ouvert le dialogue à ce moment-là.
Je rebondis juste sur ce que vous dites. Gabriel Attal qui demande à Emmanuel Macron le partage du pouvoir. Moi, je serais Emmanuel Macron. Enfin, je serais pas très content vis-à-vis de celui qui est censé être le patron un peu de sa propre majorité.
Je pense que Gabriel Attal...
Gabriel Attal fait quand même une erreur de dégainer aussi vite ce genre d'argument. Et c'est
alors
vrai
qu'il a raison sur le fond politique. Il a tort, effectivement, il ne sera pas suivi par Emmanuel Macron, mais évidemment alors, qu'Emmanuel Macron ne peut sortir de cette situation que s'il accepte de partager le pouvoir avec d'autres.
Mais il la partage de fait. Bruno Retailleau, ministère de l'Intérieur, c'est un partage du pouvoir. Alors, Renaud Dely.
On en reparlera ici dans les informés, mais dans un instant, Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter en 2027? Tout de suite, il est 9h20 et c'est le Fil Info de Maureen Sunia.
Il y a un certain nombre de craintes, déclare ce matin le préfet de police de Paris à propos du mouvement Bloquons tout demain. Laurent Nunez dit s'attendre à des actions plutôt dures, des actions coup de poing notamment dans les gares. Au total, 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France pour éviter des débordements. Cette journée du 10 septembre qui devrait se dérouler a priori avec un gouvernement démissionnaire après avoir été renversé hier. François Bayrou sera à l'Élysée ce midi pour remettre officiellement sa démission. Le patron du Parti Socialiste, Olivier souhaite devenir Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se dit aussi prête à aller à Matignon pour y mettre en œuvre un éventuel pacte de coalition incluant les socialistes et les écologistes. Fin de vigilance orange pour la Moselle, de fortes pluies ont touché l'est de la France pendant la nuit. Le centre du département particulièrement touché avec des cumuls de pluie très importants, jusqu'à 100 mm depuis l'équivalent d'un mois au mois de septembre. Et puis un nouveau match des Bleus ce soir, match au Parc des Princes qui compte pour les qualifications pour le Mondial 2026 de football. France-Islande, c'est à suivre à partir de 20h45 sur France Info.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Les informés avec aujourd'hui Alix Bouillaguet, éditorialiste à France Info TV, Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique de France Info, et bien sûr Renaud Dely. On passe à notre deuxième débat, Renaud. Marine Le Pen a rejugé début 2026, oui c'est ça, pourra-t-elle concourir en 2027?
Du 13 janvier au 12 février 2026, hein, c'est donc la date du procès en appel de Marine Le Pen, qui, rappelons-le, a été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité, 4 ans de prison, dont 2 fermes pour détournement de fonds publics. Il s'agit de l'affaire des faux assistants, des assistants fictifs du RN au Parlement européen, un préjudice estimé à 3,2 millions d'euros. Et c'est donc un traitement de faveur qui est accordé à Marine Le Pen, puisqu'elle sera rejugée à peine 9 mois après la décision de première instance. D'ordinaire, au regard de l'encombrement de la justice, le délai est plutôt de plus du double. Elle réclamait d'être jugée en appel rapidement. Marine Le Pen, elle est donc exaucée, ce qui réjouit d'ailleurs la porte-parole députée RN du Var, Laure Lavalette, qui était votre invitée tout à l'heure sur ce plateau.
Au plus vite Marine Le Pen peut clamer son innocence, et plus vite c'est une bonne nouvelle, parce que plus vite on aura les coups des franches.
Ça va pas impacter les municipales.
Mais vous savez, en France, on est finalement tout le temps un peu en élection. Et dans le timing, ça aurait toujours été avant une élection. La bonne nouvelle, c'est que Marine Le Pen pourra clamer plus vite son innocence et qu'on aura l'esprit libre pour préparer les présidentielles.
Une bonne nouvelle, sauf que visiblement Marine Le Pen n'est pas décidée à changer de système de défense, et qu'au regard du dossier, des preuves assez accablantes qui figurent sur l'existence, je reprends les attendus du jugement de première instance, d'un système piloté par Marine Le Pen pour un financement illicite du Rassemblement National, est-ce qu'elle peut, si elle reprend le même système de défense, c'est-à-dire nier toute faute, toute responsabilité, toute erreur, échapper en fait à la même peine, et est-ce qu'elle peut aussi échapper à l'exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, de cette peine qui lui a été infligée en première instance, et donc se présenter à la présidentielle.
Alix Bouillaguet, bah,
ça c'est vrai que c'est toute la question. Alors bon, c'est vrai qu'ils sont pas ravis au Rassemblement National que ça tombe juste avant les municipales, parce que c'est vrai que voir en permanence, eh ben, les Louis Alliot, les Marine Le Pen dans un tribunal, c'est vrai que pour les électeurs,
prévenus et candidats, c'est pas évident.
Exactement, c'est pas évident, et je pense notamment à Louis Alliot qui est candidat lui au municipal à Perpignan. Ensuite, c'est vrai que tout l'enjeu, c'est cette exécution, cette inéligibilité de 5 ans à exécution provisoire. Marine Le Pen, elle estime quand même qu'il y a une brèche dans le système, c'est-à-dire une brèche au nom de la liberté de candidature, de la liberté des candidats. Donc, dans son esprit, elle voudrait faire une forme de ballon d'essai, c'est-à-dire qu'en cas, et c'est pour ça aussi qu'elle crie beaucoup à la dissolution ultra rapide, parce qu'elle se porterait à ce moment-là candidate aux législatives, hein, elle est sortante, contesterait, parce que ce serait sans doute contesté par le préfet, le fait d'enregistrer sa candidature, elle pourrait se pourvoir auprès du tribunal administratif, puis en Conseil d'État, et déposer également une question préalable en constitutionnalité, ouais, c'est dur, le sortie de matin,
QPC.
Constitutionnalité, voilà, une QPC au Conseil constitutionnel. Et là, si effectivement le Conseil constitutionnel faisait tomber, on va dire, la légalité de cette exécution provisoire, ça la libérerait complètement pour la présidentielle. C'est un pari, sauf que là, il y a un enjeu, elle joue avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut que cette QPC, réponse...
C'est très peu probable. Hein,
c'est très peu probable. Il y a le fameux trou de souris, puisqu'en ce moment, on est dans des trous de souris. Ça n'a pas réussi à François Bayrou, mais Marine Le Pen tente aussi à son tour.
Plus du vœu pieux.
Mais vous avez entendu hier Marine Le Pen à la tribune à l'Assemblée nationale, au perchoir, qui dit que sa situation personnelle ne doit pas venir impacter, et donc elle dit que sa situation personnelle ne compte pas. La réalité, si on y pense deux secondes, peut-être que c'est un pari, mais qu'a-t-elle à perdre, Marine Le Pen? Elle n'a rien à perdre. C'est pas un pari risqué pour elle. Au mieux, elle se retrouve candidate. Donc, au pire, la situation ne change pas. Et donc, l'idée d'aller de recours en recours, s'il y a une dissolution, que ça accélère un peu le calendrier, ça peut justifier une décision en urgence du Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national a tout intérêt à jouer cette carte-là. Et juste un mot par rapport à cette date de procès. J'en discutais il y a quelques semaines avec un très proche de Marine Le Pen qui me disait qu'ils avaient étudié les décisions rendues par la juge qui l'a jugée en première instance. Et selon eux, cette juge, elle est régulièrement cassée en appel. Et c'est aussi là-dessus qu'ils misent. C'est-à-dire que, je vous vois sourire Renaud, mais ils ont, semble-t-il, au Rassemblement national, étudié les jugements qui ont été rendus par cette juge et qu'ils pensent qu'ils ont peut-être une carte à jouer et qu'ils mettent en avant toujours la question les juges contre le peuple. Et c'est pour ça que Marine Le Pen n'a rien à perdre à essayer.
Renaud. C'est deux choses différentes. Les juges peuvent-ils changer de décision ou les juges montrer le peuple contre les juges, son peuple contre les juges? Ça veut dire prendre acte d'une nouvelle condamnation. Le problème quand même, c'est plusieurs juristes et conseils juridiques de Marine Le Pen lui ont expliqué ces derniers mois qu'il fallait peut-être songer à changer de défense. Elle ne veut pas changer de défense. Donc, a priori, si vous répétez...
Faire comme le MoDem,
si
à un moment, valider deux, trois erreurs.
Si vous répétez en appel exactement la même défense, j'ai rien vu, rien su, rien fait...
C'était
alors
de se dédouaner complètement la défense.
Elle et tous ses co-accusés, il faut rappeler que 11 co-accusés seront rejugés en appel avec elle, qui ont été condamnés en première instance, mais que beaucoup de condamnés en première instance, eux, n'ont pas fait appel. Ce qui prouve bien qu'il y a quand même des fautes, puisqu'il y a des condamnés en première instance qui ne contestent pas le jugement. Un tout dernier point, donc il n'y a pas de raison qu'a priori le jugement en appel ne soit pas le même si elle ne change pas de système de défense. Un tout dernier point sur la date, effectivement le RN n'est jamais content, sauf qu'il voulait un jugement en appel tôt et vite, ce qui est le cas. Et pour avoir un jugement, une décision avant l'été 2026, que souhaitait Marine Le Pen, il fallait forcément que les audiences s'achèvent au plus tard au mois de février, parce qu'il faut 4 mois entre la fin du procès et le rendu de la décision, ce qui était le cas en première instance.
Et là,
ce qui explique cette date, c'est le cas. Voilà, c'est exactement ce que souhaitait le RN en ce qui concerne le calendrier.
Merci les informés, merci Alix Bouillaguet, éditorialiste à France Info TV et l'interview politique tous les matins à 7h45. Merci Jean-Rémy Baudeau, chef du service politique de France Info. Nous, Renaud, on se retrouve demain.
À demain, Agathe.
À demain, et vous retrouvez les informés ce soir, comme tous les jours à 20h, avec Victor Mattel.